Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024. Vous écoutez le quatrième épisode de la saison 8 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde, animée par l'équipe de Sneaker Empire qui met de la culture dans tes baskets.
Money's gotta be the shoes.
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 You sure it's not the shoes?
Do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
You know how I do.
Yo, what up? This is A1, and I'm chilling on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right. Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 4, saison 8. Quand la culture hip-hop fusionne musique, art, danse et sneakers, elle devient bien plus qu'une simple passion pour les baskets. C'est tout un univers. Alors, quand Arte et Thibaut de Longeville consacrent une série documentaire aux musiciens, producteurs, beatmakers, DJ Mehdi, et qu'Adidas sort une paire Friends and Family en son honneur, nous étions obligé d'en parler ce soir avec vous. Alors, à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième EP de la saison 8 de Sneak On Air, là où la culture se vit en basket. Pour notre programme ce soir, on va sauter le traditionnel « Qu'est-ce que tu portes ?» parce qu'on a beaucoup de monde dans le studio. On parlera un petit peu d'infos autour de la basket, des sorties autour des baskets de la semaine et toute une émission autour de ce release de cette basket à l'effigie de DJ Mehdi en hommage et en lien avec la sortie du documentaire de Thibaut de Longeville à retrouver sur Arte. Mais cette émission ne serait rien sans vous tous installés derrière le micro. On fait des présentations et on attaque direct avec l'actu. Il est là tous les mardis. C'est Krish est dans la place. Salut Krish.
Salut tout le monde, salut Alex.
Comment ça va?
Je suis excité comme un puceau.
C'est vrai.
Je te jure.
Ça risque de partir vite alors.
Ça risque de partir très 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 vite. Ça risque de partir très très vite.
Sortez les
mouchoirs. Super excité.
Sortez les briquets.
Super excité parce qu'on a deux très beaux invités. On a plein de trucs à raconter sur un sujet qui est passionnant. Pour ceux qui ont regardé le reportage de DJ Mehdi, c'était juste fou. Ouais. Ce que Thibaut de Longeville a fait. Donc hyper pressé d'entendre ce que Patrick et Julien ont à nous raconter sur... sur DJ Mehdi.
Ceux qui l'ont pas regardé, vous devez le regarder. Normalement, c'est dans ta bucket list.
C'est une obligation.
T'as pas le droit de continuer ta vie si tu n'as pas vu.
Exactement.
Sachez-le.
Sinon, tu n'auras plus de culture.
Sinon, tu n'as pas de culture du tout. Sinon, tu n'as pas le droit à la parole. On te coupe internet.
C'est d'intérêt.
On t'empêche de respirer.
C'est d'intérêt général.
Sur l'O2.
C'est d'intérêt général. On est obligé.
Ouais, c'est Manu qui l'a dit en plus.
On est obligé.
Exactement. Et vous l'avez reconnu, c'est l'homme au multi-blaze. Mon ami Funky P, Manu est dans la place. Salut Manu.
Salut, ça va ou quoi?
Bah ouais, super. Et toi?
Toujours.
Toujours. Il est juste à côté de toi. C'est Ghislain, l'œil rivé sur cette paire exceptionnelle qu'on sera content de vous
magnifique
présenter. Ça va, Gis?
Ça va super bien.
T'as la forme?
Ouais. Grave content de faire cette émission. Je pense qu'elle va être au top.
Yes. Allez, on essaye d'accélérer. Et c'est notre premier invité. Patrick Tran est dans la place. Vous l'avez déjà entendu dans différents épisodes. Il fait partie de la team. Mais ce soir, on le reçoit avec un invité et surtout sa belle paire de sneakers. Salut Pat, comment vas-tu?
Hello, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je suis très très fier d'être là pour parler de DJ Mehdi. Merci.
Ouais. Et ben voilà, et puis tu pourras évoquer ce que représente pour toi DJ Mehdi. Il est prêt, il a branché notre quatrième micro, c'est Raph aka Chauve. Comment ça va Raph?
Salut tout le monde, ça va, on n'a pas le temps, très bien, merci et toi?
Ça va bien, ça va bien. Il n'aime pas toujours prendre la parole, c'est Jaime qui fait vivre depuis
bien
quelques
là, toi,
semaines nos stories. Vous avez vu l'upgrade hein, qu'on a pris sans tacler personne, hein, parce que c'est jamais évident de faire de la com.
Ouh Raph, ouh Chauve.
Et de son garçon.
Et en tout cas, salut Jaime, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde.
La forme?
Ouais, bien, merci. Et vous ?
Bah écoute, super. Et il est là, il partagera quelques anecdotes s'il sort son œil de l'œilleton de son appareil photo. C'est notre photographe officiel chez Sneakers Empire, c'est Don Julio, a.k.a. Julien est dans la place. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Bon Julien, on est où ?
Julien. Merci chauffe pour les stories, quoi.
Yes.
Avec plaisir, c'est moi qui l'ai fait depuis 3 semaines, tu vois le upgrade ?
Et voilà, et Seb, tu veux dire un petit coucou, et on a Seb Sneakers.
Salut à toutes et à tous.
Tu vas bien Seb ?
Ça va, et vous ?
Eh bien écoute, avec très très bien, en grande forme et très excité, eh bien je vous propose d'attaquer tout de suite.
Ouais, on n'a pas le temps là.
Avec de l'actu mec. Avec de l'actu, et c'est Ghislain qui a envie de nous parler de l'homme dont je vais écorcher bien sûr le nom de famille, John Donahoe, qui quitte son poste de PDG de chez Nike.
C'est ça, ouais. Alors même le prénom, le nom, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne prononciation pour moi non plus. Alors je dirais John Donahoe, a priori.
On va l'appeler Jojo.
Ouais, on va l'appeler Jojo.
Donc, oh oui.
Jonah, oh oui. Oui, la grosse actu de la semaine, du coup, c'est le départ à la retraite de Donahoe, qui intervient après qu'il occupait la position de président directeur général depuis 2020. Sa nomination à l'époque fut assez remarquable parce qu'il ne venait pas du tout de chez Nike. C'était un outsider de l'industrie des sneakers qui avait dirigé diverses entreprises avant, dont eBay. Son départ à la retraite était quand même très attendu si on en croit la plupart des employés du siège mondial de Nike et même des fans de Nike de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui estiment qu'il avait carrément mal géré la marque. Comme suppression d'emplois, favorisation de réédition de paires rétro au lieu de passer sur de l'innovation. Il avait dû faire face à pas mal de défis comme la pandémie du Covid, le fameux scandale de revente impliquant le fils d'un dirigeant de Nike.
Ouais, et d'une dirigeante.
Ouais, voilà, on en avait parlé, je crois, il y a quelques épisodes. Et aussi la récente chute des actions de la marque, à leur plus bas niveau depuis 4 ans quand même.
Ouais, c'est pour ça que vu de l'extérieur, l'histoire de la retraite, on n'y croit pas trop.
Le gars s'est fait virer.
Alors, surtout qu'il restera dans l'entreprise en tant que conseiller jusqu'à fin janvier 2025.
Ouais, c'est pareil, ça dépend. Hein, parce que pour le coup, je pars avec Patrick.
Ça fait partie de la rupture conventionnelle. Quoi.
Bah, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des boîtes qui te disent « Bon, effectivement, tu peux rester là jusqu'en 2025. On va te payer ton salaire jusqu'en 2025. Par contre, reste à la maison, voilà. Ferme ta gueule et ça se passera très bien pour tout le monde.
Tu vas faire du télétravail.
Exactement.
Quoi. Et du coup, son remplaçant, donc Elliot Hill, quant à lui, bah lui c'est un vétéran de chez Nike. Ça n'a vraiment absolument rien à voir. Et on a vu un petit peu son histoire qu'il a raconté dans un podcast en 2023, le podcast Fortitude FW, où il raconte un peu comment il a commencé à travailler chez Nike, ou plutôt qu'il a commencé en tant que stagiaire en 1988, après avoir harcelé un employé Tim Joyce pendant 6 mois, alors qu'il l'avait rencontré lors d'une conférence à l'université de l'Ohio. Il dit lui-même, dès la fin de la conférence, je suis allé le voir et je lui ai dit « Hey, je veux travailler pour Nike ». Après ça, il a débuté au bureau régional des ventes du Midwest en faisant plus ou moins tout ce qu'on lui demandait, le bon sbire motivé. Quoi. 6 mois plus tard, il avait son propre territoire de vente. Il prenait la route en minivan Chrysler pour vendre les vêtements dans les petites boutiques. Quoi.
Ouais, bah c'est le début de Nike, hein, de Blue Ribbon Sport, c'était comme ça quoi. Mm.
Exactement.
Donc changement.
On parle aussi il a commencé en 88, c'est aussi l'année où dans une salle avec 400 ou 500 employés qu'il a entendu donc les premières publicités Just Do It qui d'après lui ont été un banger automatique. Il dit lui-même que l'endroit est devenu complètement fou et que ça a été un moment ultra important pour sa carrière. Il nous apprend aussi dans le podcast une autre petite anecdote assez sympa, c'est que pendant 2010 et 2013, alors qu'il était vice-président et directeur général de Nike Amérique du Nord, il a créé une relation assez étroite avec Michael Jordan, parce qu'en fait, la marque voulait développer la marque Jordan à l'échelle mondiale, mais l'athlète était un peu réticent à l'idée. C'est pour ça que Elliot Hill, du coup, était mandaté un peu pour motiver Michael. Et il raconte aussi, petite anecdote, que Michael lui avait demandé à l'époque s'il savait quelle taille de chaussures il portait. Alors forcément, Elliot, il savait qu'il faisait du 42. Et Jordan lui a dit juste après, il a dit « Bon, bah, si nos revenus diminuent, rappelle-toi que je te fourrai la basket dans le fion, si je puis me permettre. » quoi.
On peut.
Donc oui, après au final, Elliot a continué à gravir les échelons, à monter pour devenir directeur des opérations commerciales et marketing de Nike et Jordan jusqu'en 2020 où il a pris sa retraite en faisant aussi une petite vente aux enchères de sa collection de sneakers qui a quand même rapporté 2,25 millions de dollars entre les ventes et les dons pour une bourse d'études au nom de sa mère. Pour lui, il décrit ça comme un moyen de clore le chapitre avec Nike. Et aujourd'hui, ou plutôt le 13 octobre, du coup, il réintégrera l'entreprise à la place donc de John Donahoe et il reprendra le rôle, enfin, il va prendre le rôle de PDG. Et il va aussi prendre le part au comité exécutif de Nike et il va devenir directeur du CA. Voilà, donc on passe vraiment un peu du tout au tout pour Nike. Et en vrai, moi j'espère que ça va peut-être redorer le blason de la marque qui se fait un peu tacler depuis quand même quelques années.
Faut attendre un peu, hein, ça va pas se faire tout de suite.
Ouais. Ah oui, bien sûr, il y a des restes à passer. Quoi.
On le dit depuis pas mal de temps qu'on voit rien arriver de chez Nike, que c'est un peu chelou. Que...
Bah, en fait, ils ont pris le truc dans le mauvais sens. Rappelez-vous qu'ils ont changé tous les designers. Donc de la marque, donc tous les designers de tous les BU ont changé. Ils se sont dit on va commencer par ça. Et au final c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc les designers entre guillemets n'avaient rien à faire dans cette histoire. Ils ont changé trop de trucs sauf ce qu'il fallait pas.
Ouais, il vaut mieux changer le brief pour ton designer que changer le designer.
Exactement. Bon, bah voilà. On avance.
Allez, avance. Et on va parler de quelques sorties dans la semaine. On refera un zoom hein, parce qu'on est obligé de sauter. On a trop d'actu aujourd'hui. On est obligé d'en sauter quelques-unes.
Mais plein d'autres trucs à dire.
Toi, t'avais beaucoup envie de parler de Le Fleur qui sort une collab avec Converse sur une Chuck Taylor.
Ouais, parce que j'ai toujours été un peu fan de ce qu'il faisait. Du coup, Le Fleur, c'est la marque de Tyler The Creator avec tout son crew Haute Future. Et donc là, ils sortent une Chuck Taylor Low. Mais pour eux, ils considéraient que la Chuck Taylor n'avait pas assez de couleurs qui correspondaient à leur marque. Donc là, ils sortent pas moins de 10 paires en fait. Tous avec des coloris plus ou moins pastels. En fait, ils ont été révélés là aujourd'hui, les 10 différents coloris.
Très sympa.
Avec une vidéo toujours dans le délire de What Future, assez what the fuck, assez jackass-esque, si je puis me permettre. La Chuck Taylor Low, du coup, sera avec une semelle blanc cassé, des lacets beaucoup plus épais pour complémenter une silhouette plus large et un logo signature Daryl, qui est un peu le chien mascotte de la marque Le Fleur, quoi. La paire sort le 26, enfin les 5 premières paires sortent le 26 et les 5 autres, on attend une release date quoi.
Et ben voilà. Voilà, c'est pas mal. Et on a retenu une dernière paire dont on va vous parler avec le petit débat, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire parce que c'est vraiment tendance. C'est A$AP Rocky avec Puma qui sort un pack de baskets pré-usées, on va dire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
La Destroyed Pack. C'est A$AP Rocky qui est en collab avec Puma là-dessus, sur des modèles un peu rétro 2000, avec cette grande tendance de basket. Mais alors là, c'est pas juste, c'est presque un peu crado, quoi. Hein. C'est au-delà de vie.
Ça ressemble beaucoup à ce que Balenciaga a fait. Hein.
Exactement.
Donc Balenciaga a sorti ce genre de paire.
Un peu moins abusé, mais ouais, c'est dans le délire. Genre la basket sort d'un lac ou quelque chose comme ça, quoi.
Mais je comprends pas. Franchement, je déteste. Je comprends pas.
Après, j'ai vu ça aujourd'hui encore parce que j'ai vu un peu plus d'infos sur ça. Le pack est assez particulier parce que d'une partie, on a donc la Puma In L qui est vraiment vieillie à mort dans deux coloris différents. Et il y a une autre paire qui sort aussi parce qu'apparemment, tout le pack est d'inspiration automobile, si j'ai bien compris. Et l'autre paire, c'est complètement l'inverse, ultra futuriste avec des chaussures imprimées en 3D directement, quoi. Vraiment, il faut, si vous avez l'occasion, regardez sur Instagram, vous verrez.
Tu me fais une transition là, la 3D.
C'est vraiment quelque chose quoi.
Une passe D pour Krish, parce que là, ça a leaké depuis quelques jours. Et franchement, elle m'impressionne. C'est une Adidas 4D Climat Cool Evolution.
Exactement, Climat Cool Evolution, pour ceux qui ont connu... La Climat Cool qui est sortie en 2002-2003, la particularité de cette chaussure, c'était d'avoir une chaussure qui était hyper et ultra respirante, puisqu'il y avait de l'air finalement qui pouvait s'insérer de partout, du dessus, sur les côtés, du dessous. Et là, en fait, il y a cette 4D Climat Cool Evo, qui est un espèce de concept car de la chaussure. La particularité du 4D chez Adidas, c'est que finalement, c'est un liquide qui est figé par la lumière et l'air.
C'est
carbone qui fabrique ça. Donc le liquide est figé par la lumière et l'air, ce qui donne finalement ce côté un peu futuriste de la paire. Donc j'ai pas d'autres infos. Maintenant, On sait que toutes les marques sont sur une espèce de guerre technologique pour montrer qu'ils sont les meilleurs là-dessus. Je trouve qu'ils ont tapé fort parce que on avait l'habitude de voir du 3D, du 4D uniquement sur la semelle.
Complètement.
Là, on arrive à avoir du 3D, du 4D plutôt sur le shape, donc ce qui est assez intéressant. Par contre, je ne sais pas si c'est une chaussure de sport à proprement dit. Pour moi, ça manque clairement de maintien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rigidité va rapporter du maintien dans une chaussure de sport. Donc si tu n'as pas de rigidité, tu vas forcément avoir le pied qui bouge un petit peu à la fois dans la chaussure et sur la semelle. Et quand tu regardes comment c'est porté, tu le vois que c'est pas hyper stable. Donc je ne sais pas à quoi sert cette paire. En tout cas, techniquement parlant,
c'est pas mal.
Je voulais juste rajouter que Evo, c'est la paire de running à 500 euros.
Exactement.
D'où les trois bandes sur le côté, les grosses trois bandes et le côté running.
Ouais. Donc on retrouve l'inspiration running. Maintenant, trouver un runner qui va courir avec et faire de la performance avec, à mon avis, c'est pas gagné.
Mais au moins, tu vois que là, parce que c'est ça, on disait, moi, ça manque de vision. Adidas, ils ressortent beaucoup de modèles anciens. Il y a la Spécial, les Samba qu'on voit partout, la Forum qui a été rincée il y a quelques années, les ZX. Et tu vois, la 4D, c'était un peu retombé. Et chez Nike, c'est encore pire, à part le design de la nouvelle Jumpman pour Travis Scott. Il se passe pas grand-chose.
Non, mais
alors que 90, c'était la guerre des technos. Il y a moyen de faire plein de trucs. Bah ça
après,
serait bien
c'est...
que ça lance. Quoi.
Ouais, mais du coup, tu lances quoi comme techno? C'est ça qui est compliqué, tu vois.
Ouais, complètement.
Parce que comme dirait Jacques, la techno, en fait, à la base, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc il y a un besoin, tu vois. Et c'est là où finalement toutes les marques reviennent sur des semelles type EVA, caoutchouc qu'on a toujours connu, parce que finalement toutes ces innovations techniques, à quoi elles servent? Si ce n'est dire j'ai une innovation technique. Quoi.
Comme c'est... la... Comment c'est... Merde, j'ai oublié le nom là. Avec les lassages automatiques.
Ouais, bah on en parlait, il y a Hyper Adapt.
Merci, Hyper Adapt.
Innovation technique, mais aucun besoin.
Ouais, voilà, c'est ça.
Aucun besoin.
Bah, t'as très bien résumé et Jacques avait tout à fait raison. Ça vous va pour les actus?
Yes.
Allez, on tient notre timing. Il est 20h18, vous écoutez Sneak On Air, c'est le quatrième épisode de notre saison 8. Vous êtes bien sûr sur RBS 91.9 et sans doute vous avez déjà acheté votre place pour la RBS partie le 5 octobre. Dépêchez-vous, il en reste plus beaucoup. Et ben, on va parler de hip-hop, de basket, de musique même, ça va au-delà du hip-hop. Et on est ravis d'accueillir Patrick et Julien pour évoquer avec eux ce documentaire et plus particulièrement la paire à l'effigie de DJ Mehdi. On dira pas tout de suite sur quel modèle c'est inspiré, mais en tout cas, on voulait faire peut-être un petit zoom, non seulement sur le documentaire, on embrasse Thibaut de Longeville qu'on avait reçu à la radio, qui est quand même l'un des premiers gars à avoir fait un vrai documentaire sur la sneakers. Je pense qu'on était dans les années 2000...
On était en 2010. 2000... Non, c'était bien avant, c'était 2004-2005.
Ouais, c'est ça.
Il est dispo quelque part, ce documentaire?
Alors moi, je l'ai
YouTube.
En CD, si tu veux.
Moi aussi, je l'ai en CD.
Sur YouTube.
Sur YouTube, okay. Tu peux le trouver, ouais.
C'est le premier, et là, en fait, c'est 6 épisodes sur arte.tv.
Exactement.
Autour du travail de DJ Mehdi.
Exactement. Donc, au-delà de son travail, on découvre un peu sa vie. Moi, je l'ai tout de suite regardé le jour de sa sortie. J'ai enchaîné les 6 épisodes d'un coup, d'une traite, parce que les épisodes durent entre 39 minutes et 46 minutes. Et pour être totalement transparent et franc, j'avais oublié. J'avais oublié tout ce qu'il avait fait. En fait, évidemment que tout le monde connaît DJ Mehdi quand on est un peu fan de hip-hop et de hip-hop français. Mais j'avais oublié qu'il avait fait tout ça.
Même
j'avais oublié qu'il était. Même pas que de hip-hop, ouais.
Il y en a qui l'ont connu autrement.
Il y en a qui l'ont connu autrement, mais j'avais oublié qu'il était à l'origine de tellement de choses. La mafia Kin Free, c'est lui. Ideal J, c'est lui. Enfin bref, il a fait tellement de choses. Il a à l'origine de tellement de choses que le fait de revoir ça, je me suis dit putain, merde, mais c'est vrai que c'était quelqu'un, quoi.
C'est ouais, complètement ouf. J'ai pris une gifle parce qu'il y a plein de choses que moi je savais pas, alors que pourtant je suis quelqu'un qui a beaucoup creusé sur tout ce qui est musique et surtout hip-hop. Et là où j'ai vraiment pris une grosse claque, c'est la précocité du mec.
Ah ouais,
13 ans. Quand tu vois au début, ce qu'il arrive, le mec il crée son propre sampler.
Truc de ouf.
Et il crée des instrus de dingue que même à l'heure actuelle, avec toutes les nouvelles techno, t'as 95% des gens qui arriveraient pas à faire. Et lui, il fait ça en découpant des bandes, en mettant du scotch et tout. Et t'as un mec qui s'appelle Kerry James, qui a le même âge que lui, qui parle comme un mec de 40 piges.
Déjà, quand t'écoutes les sons de Kerry à 11, 12, 13 ans, Mais c'est une folie.
De ouf, hein.
Le groupe Ideal J, Ideal Junior, comme ça s'appelait réellement au début, mais c'est indécent en fait. Les mecs, ils viennent pas de cette planète. C'est pas possible.
Mais tu vois,
les images d'archives sont dingues. T'as l'impression qu'ils ont créé des trucs à l'époque. Mais attends, c'est pas possible.
C'est exactement ça. Donc, ouais. Et en plus, j'ai écouté Thibaut de Longeville qui racontait. Donc, il y a un truc qui est sorti sur YouTube où t'as Thibaut de Longeville qui a invité.
C'est Raph qui nous l'a envoyé.
T'as This is La Peste qui est avec lui. Et finalement, il décrypte, tu vois, scène par scène. Et Thibaut de Longeville disait aussi que dans la manière dont il a construit le documentaire, finalement, ils ont dû aller piocher dans des archives, mettre telle voix.
Je crois qu'il y avait très peu d'archives. Hein. C'est Julien qui me disait qu'il avait très très peu d'archives.
Exactement. Tiens, Julien, tu peux nous raconter peut-être.
Non, mais je pense que c'est un travail d'orfèvre de la part de Longeville. Quoi. Comme dit, c'était quelqu'un de très proche de Mehdi, mais c'est aussi quelqu'un de constructif et d'intelligent dans sa démarche créative. C'est-à-dire que le mec, il est allé chercher avec peu de choses, l'essentiel, c'est-à-dire qu'il a réussi, et quand même je suis assez heureux de dire ça, quoi, il a réussi à faire découvrir un mec brillant que nous on connaissait depuis 25 ans, et de faire renaître un petit peu de ses cendres un mec qui était pour nous et pour nous tous, enfin un peu spécialiste là-dedans, le maître des maîtres, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas une meilleure soirée que ces soirées à lui en tant que DJ. Ça n'existait pas, en fait, quoi.
Et du coup, Julien, quand tu dis qu'on connaissait, quand tu dis nous, raconte-nous le lien, justement, que tu avais avec Ed Banger, avec DJ Mehdi, parce que forcément, c'est hyper intéressant. C'est ça qu'on veut savoir.
L'histoire est folle.
L'histoire est drôle, ouais. C'est-à-dire, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui allait bosser chez Pedro Winter quand il a lancé son label.
Jérôme, qu'on a eu déjà à la radio, hein.
Ouais, qui est un frérot à nous tous. Et en fait, on s'est tout de suite accroché d'amitié avec Pedro et cette équipe-là. Et arrivé un jour où Irfan, qui travaille maintenant avec Breakboat, mais qui avant travaillait avec Jérôme et Outlines, dit, bah Mortel, on va faire un remix pour Mehdi, pour son Lucky Boy. Et en fait, ils ont fait un remix et moi j'ai fait le clip. Et donc c'est un clip qu'on a fait avec Baptiste Magontier, qui est un mec qui a passé 4 ans, à faire des dessins, quoi. C'est-à-dire que nous, on avait tourné chez le petit frère de Jérôme, avec Irfan, avec Philippe, chez lui, dans sa maison. On a Kassovitz qui nous a prêté une Kalachnikov pour pouvoir faire des plans dans le clip. Parce que
j'en peux plus de cette anecdote, elle est trop folle.
Parce qu'on voulait.
Une fausse, hein.
Bien sûr, une fausse, évidemment, qu'on a trimballé dans le métro comme des connards avec Jérôme à se dire putain, on va nous arriver des galères. En mode les vieux coups de pression de Casso qui disaient vous faites pas pécho les mecs, c'est sérieux ce genre d'histoire et tout, faites pas les cons. Et nous on était tout petits, quoi, on avait 20 ans, enfin 25 ans, tu vois. Et on a créé un bazooka avec un tube à poster et une fourchette. Et on a fait un clip et voilà, il est décédé. Et je pense que c'est un hommage, tu vois, de nous, notre petite bande de Strasbourg, parce que c'est pour ça, tu vois, c'est RBS, Radio Bienvenue Strasbourg, nous on vient tous de Strasbourg. Et voilà, Irfan, Jérôme, Wam, on a fait un clip, voilà. Qui est mortel et qui, à mon avis, le remix d'Alkline, c'est juste un des morceaux les plus banger et mortel de l'album de Mehdi, quoi. Et c'est là-dessus aussi, en termes de musique, juste de comprendre à quel point nous, Strasbourg et Outlines, on faisait déjà ce pont, quoi. C'est pour ça qu'ils bossent avec Outlines, Mehdi, parce qu'ils captent que, tu vois, des petits mecs qui ont été bercés par Reza du Wu-Tang, qui ont fait des beats, parce que Jérôme est très proche de Reza et que Irfan bossait dans le hip-hop avec les labels de Stuttgart, Nulz Ibn Elf. Voilà, enfin, c'était déjà le hip-hop et l'électro, quoi. C'était nous on vient de Strasbourg.
Ouais, parce qu'en Allemagne, j'ai l'impression qu'il y a moins de frontières entre le hip-hop et l'électro.
Ouais, je pense que
ouais, culturellement, il y a beaucoup plus d'ouverture chez eux.
Je crois que ça fait déjà longtemps qu'ils ont déjà fusionné l'hip-hop et l'électro, les Allemands. Ça fait déjà comparé à la France, je veux dire.
Ouais, mais je pense surtout que la nature de la chose, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. Et encore une fois, les gars, vous parlez d'un documentaire, encore une fois, qui est, je pense, de l'orfèvrerie, très bien fait par un réalisateur qui connaît son sujet.
Ouais, ton œil de réalisateur.
Juste dernière dédicace, les gars, c'est Arte, quoi. Encore une fois, c'est chez nous, c'est Strasbourg, quoi. Arte, c'est Strasbourg, les gars. C'est pas sur Netflix, c'est pas sur Canal.
Ouais, faut pas l'oublier.
Et qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui découvrent un pionnier de la musique. Nous, on a eu la chance de le croiser. Enfin, des anecdotes cons. Tu vois, on partait avec Jérôme, on prenait un taco et on allait chaperonner DJ Mehdi parce que Jérôme bossait pour Pedro et Headbangers. Et on se prenait une claque, en fait. On allait passer 3 heures à écouter Mehdi mettre le feu dans une petite résoie qui voulait rien dire. Et en fait, le mec était trop fort, en fait. C'était
le
meilleur.
Et donc ça, c'est le début de son époque électro.
Ouais, c'est exactement ça. C'est la fin du documentaire. C'est quand il a passé toute cette étape hip-hop qu'il a tout défoncé, quoi. Qu'il a pris un coup de boule avec le 113. Et qui se dit à un moment, voilà, moi je vais faire du son, je vais continuer à faire mes trucs. Et comme dit, que ce soit, c'est la musique qui le berce, le mec. Et ouais. Et que nous, on allait juste au Ressoi chaperonner quand il fallait y aller. En fait, on allait quand c'était Mehdi, quoi. Parce qu'on savait que ça allait être du bon son, en fait. Qu'on allait prendre une trempe de DJ, qu'on allait voir un espèce de psycho kiffer le son comme nous et qu'on allait juste rester et observer, quoi.
Et je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le mec, non seulement était génie, mais était tellement sympa. Tellement. Enfin, ça se voit dans le clip, mais Julien, il peut le dire mieux que moi, pour l'avoir vu 2-3 fois et discuter, échanger quelque part, le gars est tellement gentil, c'est incroyable, incroyable.
Ouais, comme dit à l'époque, pour une autre anecdote, moi j'étais journaliste et j'avais créé un magazine et j'écrivais des papiers pour d'autres magazines. Et en fait, clairement, Mehdi, c'était le gars qui était, dès le début de mes nouveaux jobs, c'était mon go-to interview, quoi. C'était, putain, je vais aller passer une heure avec un gars malin, super intéressant, qui va me parler musique, qui va m'apprendre des trucs, qui va me faire découvrir du son. Et de toute façon, ça ferait un bon article. Donc, je devais faire des portraits de DJ pour mon taf. Et en fait, dès que je commençais un nouveau magazine, c'était, bah, vas-y, je vais faire Mehdi, parce que comme ça, au moins, on va pas se faire chier, quoi.
Il y a toujours matière à raconter, en fait.
On se fera pas chier, quoi.
Merci, merci. Ben, je vais demander, on va passer la main un peu à Patrick. Toi, qu'est-ce que t'as pensé du documentaire? Est-ce que t'as découvert des choses? Et comment finalement t'es tombé là-dedans, quoi?
Je sais pas comment on peut enchaîner, rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de déjà dire, parce que tout a été dit. Le gars est incroyable.
Super émission.
Le gars est incroyable. Il a commencé dans le hip-hop, il a enchaîné dans l'électro, dans tous les domaines, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a touché, c'était fou. Et moi, Mehdi, pour moi, c'est les années 2000, 2005, mon arrivée à Paris et la découverte des clubs, des soirées headbanger. Et certainement qu'on s'est croisés en soirée sans se connaître. Et voilà, il faut le dire, Mehdi, maintenant, beaucoup de gens vont le découvrir, mais c'est un truc de boomers. Voilà, Mehdi, ouais. On avait.
Mais, si vous voulez, dans les, faut, ce qu'il dit, c'est assez vrai, quoi. Enfin, nous, on était à Paris depuis un moment. Je veux dire, le seul sésame du moment, il faut se rendre compte qu'il y a eu, il y a un moment, le label Headbangers dans le monde entier. Enfin, nous, c'était nos voisins, on habitait dans le même immeuble. Irfan travaillait avec eux et voilà, on était là. Mais
ils ont mixé à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Il y avait toute cette French Touch,
ouais,
qui a
bien
mixé,
sûr,
quoi.
Mais
si parce que voulez, pour ceux qui connaissent quand même pas Headbanger, si je me trompe pas, c'est les Daft Punk, c'est Justice, entre autres. Hein, mais
ouais, c'est Cassius, Justice,
DSL,
DJ Feeds, tout le monde. DSL à l'époque, c'était fou, ça.
Et ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 2000, Headbanger, c'était le label. C'était The Label et Pedro Winter, je me souviens, on l'appelait le maire de Paris. Le gars était incroyable, il rentrait partout.
C'était ça, en fait. Moi, la seule manière de rentrer dans une résoie à Paris dans les années 2000, n'importe quelle résoie, c'était de dire, ouais, mais je viens de la part de Pedro. Nous, c'était notre tricks, quoi. C'est-à-dire, on était invités nulle part, on allait partout. On allait partout grâce à Pedro, quoi. On était là, ouais, non, mais en fait, on doit être sur la liste de Pedro. Mais ouais, mais mec, ah, ok, bah, vas-y, rentrez dans le connard, quoi. Tu vois, on veut pas d'embrouille avec le maire.
Et juste, la première fois que je l'ai vu, Pedro, c'était 2005-2006. Il avait, je me souviens toujours, il avait un blouson en cuir Bape, à l'époque où Bape, c'était introuvable.
C'était le début, ouais.
Et juste cette veste, moi, ça m'a estomaqué, quoi. J'étais, ah. Pas possible.
Tu t'es dit, c'est quelqu'un, le mec. C'est quelqu'un.
Pas possible.
Il porte du Bape, c'est quelqu'un.
C'est quelqu'un. Et moi, surtout, peut-être Manu, il pourra réagir là-dessus. C'est quand il parle de cette boucle où finalement, ces sons électro qui. Enfin, je suis pas bon en rap, mais le son qui fait pour que les gens posent leur voix devient de plus en plus électro. Ici en France, la mafia qu'un frills, il n'y a que le 113 qui accroche, les autres pas trop. Et finalement, c'est repris par des rappeurs ricains, Jay-Z, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, ça revient après ici, quoi.
Ouais, c'est juste que Mehdi, c'était un visionnaire. Musicalement, il n'y en a pas eu beaucoup. À un moment dans le reportage, il est comparé à Quincy Jones. Et pour moi, c'est à juste titre. C'est à juste titre parce qu'il a apporté musicalement dans le panorama français quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Il a permis de casser certaines barrières. Parce que comme c'est bien décrit dans le reportage, t'as ce petit mec qui n'est pas du tout gangster, qui traîne avec que des gangsters et qui fait de la musique pour eux et qui les dirige en studio. Donc derrière, t'as vraiment ce truc de alors un peu plus Pharrell, parce que Pharrell c'est pas du tout un gangster, mais il peut faire de la musique de gangster et ça marche. Il peut diriger les gens parce qu'il essaye pas d'être ce qu'il est pas en fait. Et derrière, le mec, il apporte quelque chose de nouveau. Il permet de dépasser un petit peu le cadre qui était conventionnel de « Ouais, tu veux rapper hardcore, il te faut un beat hardcore. » Et c'est bien expliqué sur un des morceaux de Rof. Enfin voilà, t'as plein de petits trucs comme ça qui te prouvent que le mec, il va vraiment, vraiment plus loin que ce que tu pourrais attendre d'un simple producteur ou un beatmaker.
Bah, il le fait très bien avec Rof, il le fait avec Booba aussi. Donc le morceau qui produit pour Booba. Et on se rend compte que ce soit le morceau de Rof ou que ce soit le morceau de Booba, en fait, c'est des beats normalement sur lesquels ils vont pas poser, quoi.
Clairement.
Qui sont aux antipodes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et au final, ils arrivent à le faire, ils arrivent à le poser et ça devient des hits. Donc, c'est ça qui est intéressant avec DJ Mehdi. Oh, c'est que.
Musicalement, c'est clair que c'est allé hyper loin, quoi.
Et en vrai, il y en a encore plein parce qu'il a taffé avec This Is sur un album. Et justement, Thibaut, dans la vidéo de YouTube, il explique qu'il a pas pu mettre tout le monde et que les archives de This Is et DJ Mehdi en studio, mais il les a reçus après la diffusion du reportage. Donc il était, malheureusement j'ai pas pu mettre tout le monde, mais ouais, DJ Mehdi il a taffé avec tout le monde, on se rend pas compte.
Alors par contre il y a un truc, hein. Sony Music, si vous nous écoutez, faites quelque chose parce que Tonton Dublé, enfin les princes de la ville, on le veut sur les plateformes. Voilà.
On sait pourquoi c'est par rapport au problème
de questions de samples qui n'ont pas été.
C'est ça, ils en parlent dans le documentaire. C'est les premiers à avoir. Enfin, ils ont été attaqués pour la reprise du sample.
Pour Tonton Dublet, ouais. Mais
Tonton Dublet.
Normalement, à un moment, c'est bon, tu signes ton truc, tu payes tu clears ton sample et tu peux sortir le truc. On parle d'un classique du hip-hop français. Normalement, il doit être disponible sur les plateformes.
C'est clair.
Voilà, pour moi, c'est un non-sens total. Peu importe ce que ça doit coûter, forcément ça va rapporter énormément. Là, ça aurait été le moment parfait pour le dropper, tu vois.
C'est pas faux.
Sony, vous êtes.
Concentrez-vous.
Voilà, concentrez-vous. Concentrez-vous. J'ai failli bosser chez eux, faut pas oublier.
Et donc, je salue Bissot. On avait repris au travers de notre story quelques-uns de ses visuels, qui a fait un super article autour de DJ Mehdi et de cette sorte, enfin ouais, de cette paire Friends and Family. Donc c'est des modèles édités de manière très très réduite, qui là était une Karim Abdul-Jabbar haute, sur lesquels ils avaient remplacé la tête de Karim Abdul-Jabbar, comme celle que vous pouvez découvrir sur une Stan Smith, des trucs comme ça, par la tête de DJ Mehdi, quoi.
Ouais, mais celle qu'on a aujourd'hui, c'est pas celle-ci, hein.
Et c'est pas celle-ci, et on va demander à Patrick de nous en parler, quoi.
Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené, Pat ?
Alors, c'est une Abdul-Jabbar. Et pourquoi une Abdul-Jabbar ? Parce que si vous prenez l'album de Mehdi sur Headbanger, Lucky Boy, on voit qu'il est habillé avec une paire de Jabbar. Et dans son premier clip, il a cette Jabbar, cette fameuse Jabbar. Et donc, comme hommage pour la sortie documentaire, Adidas a sorti en quelques exemplaires une Jabbar en lot. Bleu et avec les bandes blanches, pardon, avec les bandes bleues. Et comme on le disait avant, Mehdi sur la languette à la place de Abdul-Jabbar, et surtout derrière sur le talon on a le fameux sigle Mehdi infini et le cœur.
Le cœur, voilà. Et quand tu dis quelques exemplaires, on sait ou pas?
Je sais pas.
Les mythos.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle va être sortie. Je ne sais pas.
Est sur un véritable Friends and Family.
J'espère.
T'espères. Ouais. Donc la version haute, elle a été portée par Pedro. Je crois qu'il y a Pedro qui en a une.
Pedro, Thibaut et les deux gars du 113 pour la projection du documentaire à Cannes.
Qui a été projeté, ouais, pendant le festival, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Je précise juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, on parle d'une Stan Smith, déjà de base, pour que les idées en tête.
Non, d'une Abdul-Jabbar.
Oui. En fait, c'est une.
Oulala, oui,
pardon, tu sors tout de suite. Tu poses le micro et tu sors.
Non, et surtout, ce que je voulais préciser, c'est que du coup, Karim Abdul-Jabbar, c'est un basketteur, quand même, pour ceux qui ne savent pas.
Un des premiers grands basketteurs sponsor par Adidas, et je crois que sa première basket, c'était une superstar pro modèle haute.
Exactement, donc il a joué en pro modèle, qui est la version haute finalement de la superstar. Il semblerait que Adidas ne soit plus très ami avec Kareem Abdul-Jabbar pour des raisons probablement de droit ou de ce genre de choses. Mais Kareem Abdul-Jabbar a fait partie de ces gens qui, dans les années 80, ont fortement
promu ouais.
Le b-ball chez Adidas.
Donc, et il faut dire, il a joué aux Lakers.
Exactement.
Coéquipier de Magic Johnson.
Exactement.
Et connu pour son bras roulé.
Exactement.
Et il est venu à Landersheim.
Et ouais, comme Patrick Ewing quelques années après et quelques joueurs. Alors, cette paire, je sais pas si vous l'avez eu en main, je pense que Jaime, qui fait que shooter pour notre story, elle a l'air d'avoir un cuir. Alors, je sais pas s'il est premium, mais elle a une forme de souplesse que j'ai rarement vue sur. Sur ce type de modèle. Et au niveau de la semelle, on voit, ouais, on est quand même aux prémices des technologies. On est sur une semelle quand même assez rigide avec ces petits stries anti-dérapage. Et ouais, le modèle bas est très réussi, quoi.
C'est quasiment la même semelle qu'une superstar. Hein.
Donc, ouais, c'est proche.
C'est même très proche. J'ai presque envie de dire que c'est la même. Je vais vérifier en rentrant. Mais on est très proche d'une semelle de superstar. Après, sur la qualité du cuir, je me rends pas bien compte. Sur le toucher, effectivement,
c'est souple.
C'est super souple.
C'est pas qu'il a l'air plus fin, non? J'ai l'impression qu'il est légèrement plus fin.
Je sais pas. Je sais pas.
Patrick, tu les as portés?
Je ne les porterai pas.
Bienvenue dans le club.
La vraie parole.
Mais effectivement, il y a un vrai travail dessus. Et puis, moi, ce que j'aime dans cette paire, c'est cette espèce de simplicité. Finalement, où ce qui fait toute la paire, c'est la languette avec le visage de DJ Mehdi. Et
il est plus grand hein, que d'habitude.
Il est plus grand que d'habitude. Ah oui, ouais, généralement, il est un petit peu plus petit. Le visuel, là, il est grand. On voit bien le visage de DJ Mehdi. Et puis derrière ce logo là avec le M, avec l'infini et le cœur, donc magnifique. Franchement, magnifique.
Tu as rajouté un truc, Patrick? J'ai une question pour Julien qui traînait un peu à cette époque. Tu vois, moi, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard que la basket faisait partie de ma vie. Mais si tu veux, avant, dans les années 90, c'était normal. Dans les années 2000, c'était normal. Il me fallait une paire pour aller à tel endroit. J'en ramenais une et je le voyais pas encore comme une culture. Est-ce qu'il parlait de basket? Est-ce qu'il parlait de souliers de sport quand ils traînaient ensemble au rue Ramée?
Je veux dire, allons à... L'Empire des sneakers.
Ouais, à l'Empire des sneakers.
Ouais, non, mais franchement, en fait, moi, mon équipe, quoi, c'était Irfan et Jérôme, mais clairement, enfin, tu vois, c'est notre culture basket, elle existe depuis, je dirais, 92, 93, quoi, tu vois. Je dirais que c'est arrivé 90 au plus tard avec les Reebok Pump, tu vois, où on était déjà tous comme des oufs, les Jordan pour ceux qui faisaient du basket. Et si tu veux, on était dans cette école folle à Strasbourg, qui est l'école internationale, où si tu veux, il y avait que des ricains qui ramenaient des paires de baskets folles des States, quoi. Et puis voilà, faut pas se mentir, tout arrivait de New York et des États-Unis, quoi. Tu vois, genre, nous, on était bercés à ça. Et je pense que l'équipe Deadbanger, c'est, enfin, de mon observation, enfin, c'est normal, c'est la mode, quoi. Donc c'est aussi important que ta veste et que ta casquette, quoi. À un moment, tu vois, genre. Mais Pedro, il est très skate, quoi. Tu vois,
ouais.
Tu vois, c'est un skater, quoi. Tu vois, lui, mais des Vans.
Il est plus Vans, quoi.
Il porte des Vans, tu vois.
Mais je pense que tout le monde se souvient de cette Air Force One qu'il avait sorti, Pedro Winter, qui était dessinée de partout par Somi. Couleur noire avec des reflets arc-en-ciel. Et c'était une paire. Que j'avais pas réussi à avoir.
Tu sens,
Patrick, excuse-moi, c'est pas une paire qui était en collaboration avec Booba?
Il y avait d'abord, c'était un truc ensemble parce qu'il y avait une affiche où tu voyais Pedro et Booba sur un ring. Et la première paire, c'était Pedro. Et la paire d'après, c'était Booba en hommage au Sénégal de mémoire. Il y avait le drapeau du Sénégal. Et
c'était avec BZP.
BZP, a.k.a. Pedro Winter. A.K.A. le maire de Paris.
Mais les baskets sont arrivées aussi, si tu veux, très vite avec, à l'époque, avec Colette, quoi. Si tu veux, ça a été ouvert très rapidement. C'était la meuf de Pedro qui s'en occupait.
Il a versé une larme, Patrick.
Et si tu veux, les baskets avaient
déjà... C'était la mère de...
Non, c'était l'ex-meuf de Pedro qui s'occupait de Colette qui avait lancé
le truc. Exactement.
Et si tu veux, c'était, y avait d'un coup un étage, il y avait un endroit où il y avait 4 baskets, quoi. Et que les baskets, tu vois, alors qu'on, ça devait coûter 100 balles, d'un coup, ça coûtait 600 balles. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et t'avais que des connards qui voulaient porter les baskets qui étaient chez Colette parce que c'était le début, mais vraiment le grand début des séries limitées, des customs, des trucs, des pièces un peu uniques, rares, ou en tout cas à Paris, avec que là-bas que tu pouvais les trouver, quoi.
J'avoue, j'étais un de ces connards.
Voilà. Et je me souviens, il y avait aussi comme autre connard, il y avait Peter Schott.
Ah, on l'embrasse. Comment tu l'as mis intact comme ça, venu nous parler si tu nous écoutes. Et en creusant, tu vois, et c'est marrant parce qu'en 2000, on faisait déjà cette émission. Moi, j'étais un peu passé à côté. En plus, 2020, hein, on avait déjà l'émission. J'étais passé à côté et il y a déjà eu une collab entre Adidas et Headbanger sur une superstar. Et c'était la première fois, et ça, j'ai trouvé assez génial. Enfin, première fois, peut-être pas, mais c'est assez rare que Adidas laisse le droit de changer le coquillage, la shell toe.
Tout à fait. Et avec des touches de piano.
Exactement. On l'a sur notre script.
Et pour référence, de la
il est là au pied, hein, Pat.
Ah, j'ai pas vu.
Oui. Il est là au pied. Ah oui.
On n'a pas fait le qu'est-ce que tu portes. Vous avez vu, on aurait dû faire le qu'est-ce que tu portes.
Pose la chaussure, enlève la chaussure, pose la chaussure.
Air.
Voilà.
Tu portes quoi, Patrick, ce soir?
Ouais, attends, tu fais du combien de
mouvements ou les touches du piano?
Des superstars, ouais. Headbanger.
Et après, il va nous sortir le caleçon, les chaussettes.
L'anecdote, c'est que dans le papier dans la boîte, c'était une partition de musique. Et la partition, quand tu la jouais, si t'en étais capable, c'était un morceau de DJ Mehdi, Pocket Piano.
Ok.
Et voilà, le boucle est bouclé.
Bah, je vais nous le mettre en...
Tu fais du combien?
En musique de fond.
Incroyable. Patrick, ça dépend. Enfin, Patrick, il m'a déjà demandé de lui acheter des chaussures en 42, en 42,5, en 43, en 44. L'essentiel, c'est que son pied rentre dedans. Après, la taille, je pense qu'il s'en fout un peu.
Au pire, il met deux chaussettes, c'est pas grave.
C'est ça l'amour. C'est ça l'amour de la sneakers.
Exactement.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette Friends and Family? Tu sais à qui elle a été distribuée? Tu sais.
Je ne sais absolument rien parce que j'ai pas posé de questions.
Ok.
Comment t'as mis la main dessus?
C'est au début je voulais, maintenant j'hésite, je sais plus.
On te force pas.
C'est un cadeau.
Tu vas repartir
un cadeau,
je crois.
Non, sérieusement, j'ai aucune info sur la release. Je sais pas du tout si ça va être accessible ou pas à plus grande échelle.
Après, en toute transparence, si demain je reçois un Friends and Family, je pense que je pose aussi aucune question.
Ouais.
Tu vois, comme ça, je suis sûr de pas.
Elle t'a été remise en main propre ou par la poste?
Par la poste. Par la poste parce que.
Et tu t'y attendais, tu le savais?
Oui, je le savais. Je le savais parce que
au moment où
on me l'avait offerte, elle n'était pas encore sortie. Et donc, je savais qu'elle allait arriver.
Bon, t'as suivi le colis, le petit frisson de quand est-ce qu'il arrive le bonhomme, l'ouverture.
Exactement. Incroyable.
Bon, c'est ce qu'on vit tous. C'est ce qu'on vit tous dès qu'on a commandé Starco. J'attends ma commande, ça devrait venir bien. Tout bientôt. Et donc, ouais, on finissait par cette Adidas superstar Headbanger, qui reprend aussi, elle a des embossages très spécifiques. Bah tiens, je vais la prendre en main, parce que moi, je mate ma photo, mais en fait, on l'a en direct.
Et elle sera dans la story, évidemment.
Ouais, et t'as... Donc, tu retrouves sur l'embossage de la paire tous les noms des groupes de...
Tous les artistes,
Cassius, Buzzy P, What the Fuck, Headbanger, Mehdi, Mister Oiseau... et surtout cette shell toe, c'est très réussi en touche de piano. Hein.
Ouais, c'est rare qu'on change des shell toe. Je crois que c'était fait avec Pharrell, il me semble. Je sais plus sur quelle collaboration.
Une superstar aussi.
Oui, évidemment. Ouais. Sur une superstar. Mais je me souviens plus du nom de la collab.
Non, il va mettre une shell toe sur une NMD.
Mais ouais, c'est super rare. En tout cas, c'est très bien réussi. Est-ce que le lacet, c'est le lacet d'origine?
Oui.
Ouais. Okay.
Oui, il y avait un lacet blanc et un lacet dégradé.
Magnifique.
Blanc sur noir, avec des bandes transparentes. Hein,
tout à fait.
Qu'on retrouve. À l'arrière, pareil, transparent sans le Adidas. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la transparence de la semelle de contact. Où on retrouve. Alors, moi, il me fait penser un peu à une note de musique, hein, le logo d'Headbanger.
Et pour mettre le contexte, c'était une paire qui avait été sortie dans le cadre de l'anniversaire Courir.
Et pour vous dire que c'est la même année que la haine et tout ça.
Exactement. Et pour vous dire que Headbanger, c'est un truc de boomers, c'est que la paire, elle se trouvait très très facilement chez Courir.
Complètement pareil.
Limite en outlet.
Limite, oui, oui, mais exactement. Ah,
pense, mais non, exactement. Mais je pense que ça a été vendu en outlet.
Exactement.
À la fin.
Pareil.
La haine, ça a été vendu en outlet, ça a été soldé, ça a été. Nous, on les a touchés à des prix complètement indécents.
Ouais, mais ça fait. On était contents.
Alors, on était contents, ouais. On était contents. Non, non, vrai.
Non,
non, vraiment.
On l'avait dit à la radio, tu vois, aller chez Courir, repartir avec ta paire.
Ouais,
en plus,
ouais.
On était un peu 2020, si je dis
exactement,
pas de
bêtises. 2020.
T'étais déjà dans cette hype, modèle rare, les Off-White qui sont sortis, les Yeezy, t'arrives pas à mettre la main dessus. Là, t'es allé chez Footlocker, tu repartais avec ta paire, tu pouvais prendre ton t-shirt.
Comme dit, c'est peut-être un truc de boomers, tu vois, parce que c'est un truc qui nous concerne nous. Moi, je sais que mon fils porte du coup la haine, il a 16 ans. Donc les pièces, on les a touchées à des prix indécents, donc je lui ai acheté voilà, le suite, le t-shirt, le machin. Évidemment qu'il a fallu que je lui explique. Parce que, en fait, quand t'as 16 ans et que tu mets un truc où il y a écrit la haine, il faut quand même que t'aies un minimum de storytelling. Parce que quand tu vas au collège ou au lycée et que la prof voit que tu portes un truc la haine, mais que toi,
j'ai
tu sais,
zéro.
Et que toi, tu sais pas le raconter, bah, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, je lui ai raconté ce que c'était. Il a pas encore vu le film, mais je pense que je vais lui montrer. Mais effectivement, je pense que c'est un truc de boomers. Aujourd'hui, s'il y avait, je sais pas, ce serait quoi l'équivalent du film. Et non, même pas. Enfin, l'équivalent de
ce que récent, ouais,
plus récent, je sais pas. Bah ouais.
Ça existe pas.
Ça existe plus pas, parce que c'est
le
sur
dernier
YouTube,
film un peu comme ça, c'était Athéna, mais on va pas en parler.
Ouais. Ouais, ça crie trop.
Voilà. C'est trop ouais. De... Mais le principe est là, tu sais, la vie du quartier, nanana, sauf
ouais,
que la
ouais,
haine.
Peut-être.
Il y a un vrai scénario, quoi.
C'est vrai. C'est vrai.
Et dans la haine, on voit Cut Killer. Et Cut Killer, comme on le sait dans le documentaire. C'est lui qui a présenté Mehdi à Manu Kay. Et voilà, le monde est tellement petit.
Ouais, et surtout, n'oublions jamais que voilà, dans, la haine, c'était des questions de société. C'était un juif, un black, un arabe. Et que c'était les meilleurs potes du monde et les meilleurs potes de galère. Et que si les valeurs de la haine, aujourd'hui, étaient un peu plus véhiculées, on aurait moins de galères tous ensemble. On s'aimerait plus.
Merci, on va rendre l'antenne.
On va chialer, putain.
Je te jure. Ah, Cut Killer qui revient à Stras prochainement d'ailleurs. J'ai eu l'info.
Ah,
bah, on les a tous eu, hein. DJ Abdel, Goldfinger, Cut Killer qui
c'est
revient. Donc,
Outlines pour Breakdowns.
Ah, non, mais en vrai, en fait, je l'ai toujours dit. Sincèrement, c'est pas parce qu'on vient de Strasbourg. J'ai voyagé à Lyon, à Marseille, etc., etc. Mais on se rend pas compte en fait de la culture et de la place de Strasbourg et la place de l'Est en fait dans cette culture musicale, cette culture du hip-hop. On a le champion de France. Je parle de Cut Killer, de Mystical Cut.
Ah oui, de Red Bull Freestyle.
Red Bull Freestyle. Enfin bref,
ouais, champion DMC. En fait, c'est simple. Dans toutes les compétitions culturelles, on a des champions.
Exactement. Enfin bref, on a tellement de pépites dans cette région. C'est une folie, quoi.
Ouais.
C'est une folie.
Sous-estimez pas Schlagbourg.
Exactement, exactement.
Strasbourg est connecté avec le monde entier de près ou de loin.
C'est ça.
Et j'ai peut-être un tout petit peu sauté. On a beaucoup décrit la paire Karim Abdul-Jabbar Mehdi, mais j'ai l'impression que la boîte, elle est aussi old school. C'est un peu une spécial box.
C'est la boîte effectivement des années 80 et dessus il y a la particularité d'avoir la tête de Karim Abdul-Jabbar.
Ils ont laissé.
Je pense.
Oui, c'est les étiquettes comme les étiquettes d'antan.
Exactement.
Exactement.
Exactement, avec les petits trous en fait sur le côté pour laisser finalement
aérer les paires,
respirer un peu la paire. Donc la boîte elle est très belle et. Je trouve que c'est intéressant qu'ils aient gardé le visage finalement de Karim Abdul-Jabbar sur la paire. C'est très propre.
Bon, bah sinon on peut avoir au moins un des deux modèles quand même, on serait content quand même.
C'est-à-dire ?
Bah, j'aimerais bien qu'ils en release une des deux.
Ah, bah ouais, c'est. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri, mais je pense pas que ça sera un truc général release avec X millions de pair, quoi, tu vois.
Par contre, c'est la sortie prochaine en général release de la Jabbar. 100 000. Ouais.
Avec le nom de Jabbar ?
Oui.
Avec le nom de Jabbar.
Ouais, parce que Nastase, ils utilisent plus le nom.
Nastase, c'est fini, non ? Donc, il y aura plus de.
Moins embrouillé que Nastase et Adidas.
Ouais, mais voilà, il y aura plus de. Il y en a plein qui l'attendent, hein, la Nastase, mais la Nastase ne sortira jamais. Ne ressortira jamais.
Jamais.
Jamais, jamais.
Ou peut-être sous un. Peut-être sous un autre nom.
Ouais, mais du coup, ça perd son sens.
Ça, c'est clair.
Enfin, tu vois, si tu sors une Stan Smith, mais qui s'appelle pas Stan Smith, qui s'appelle Roger. Roger.
Alors, ah ouais, on va expliquer.
Non, mais j'explique rien. Très en colère.
Hier est passé sur France 4 le documentaire dont on vous a parlé l'année dernière, Sneaker Empire, par Sébastien Abdelhamid. Et dedans, t'as Uncle Tex, qui était un peu dans le crew de Thibaut de Longeville dans le premier documentaire Sneakers, le cul des baskets, ou Just for Kicks en anglais. Et ben... J'en perds mes mots, ouais, il se trompe quoi, il fait une petite coquille, Roger, Robert.
Non, ouais. Mais tu peux pas faire des coquilles quand tu passes à la télé.
Normalement, ouais, surtout qu'ils auraient pu réenregistrer le son et le mettre dessus. Peut-être que Thibaut est passé à côté, mais surtout que cette Stan Smith, elle a aussi été créée à Dead Villers par Werner Alvin.
Mais et tous les gars, la superstar. Enfin, plutôt l'Alsace, ouais, ouais, Strasbourg.
C'est pas si loin que ça, Dead Villers. Hein.
C'est comme les mecs qui habitent dans, t'sais, loin dans la couronne parisienne et qui te disent j'habite à Paris.
Je regarde Paname.
Paname. Alors, est-ce que un dernier mot sur DJ Mehdi, et je vous propose de parler à
On va laisser le dernier mot, je pense, à Julien et à Pat. Hein.
Yes.
Je peux juste encourager les auditeurs à écouter Lucky Boy, l'album qu'il a sorti sur Headbanger, qui est une tuerie.
Pour tous les b-boys.
Et si vraiment vous voulez encore creuser un peu, l'album Espionnage.
Moi j'ai beaucoup aimé, c'est celui que j'ai pas mal écouté.
Qui est fou.
Ouais. Et peut-être moi ce qui m'a surtout impressionné, c'est comment il arrivait à réconcilier ces deux cultures hip-hop et électro, où pendant longtemps même moi je croyais que hip-hop c'était plutôt black music et tout ça, et que l'électro c'était une musique de blanc. Et quand il explique bien dans le documentaire, il remonte aux origines, et l'électro ça part de Chicago
et Détroit, ouais.
Et de Détroit beaucoup par black music et tout ça, sauf c'est un courant, et t'as le hip-hop qui se développe à côté. Et on le disait tout à l'heure, tu vois, c'est les États-Unis qui refont la boucle en prenant de l'électro pour le hip-hop, et ça ouvre toute cette fenêtre.
Et ce qui est fort aussi chez DJ Mehdi, c'est que d'ailleurs je crois que c'est Mokobé du 113 qui en parle, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce serait compliqué pour un mec du hip-hop de dire « Les gars, je m'en vais dans l'électro. » Tu vois ? Et en fait, lui, il le dit très bien dans le documentaire qu'il en avait rien à foutre.
Il veut jamais faire la même chose.
Tu vois, il en avait rien à foutre de savoir ce que les gars du hip-hop allaient penser. Il est parti le faire. Et ce qui est fort, c'est que malgré le fait qu'il soit parti, les gars du hip-hop ont continué à le respecter. Alors qu'au final, ça aurait pu se terminer en... Pardon ?
Au début, pas vraiment.
Ouais, au début, pas vraiment, mais c'est normal.
Au final, le gars, il a forcé le respect parce que.
Exactement.
Il a fait des trucs.
Et quand tu dis au début, pas vraiment, ça a pas duré longtemps.
C'est vrai.
Tu vois, parce que les gars ont compris que, bon, de toute façon, Mehdi, ça allait être Mehdi. Et au final, il a forcé un respect qui est juste incroyable, quoi.
Toi, tu sentais, Julien, cette appétence à vouloir toujours découvrir plus, faire plus, faire différent ?
Non, je pense. Non, parce que je connaissais pas assez bien du tout. À part dans nos interviews où c'était quelqu'un de, encore une fois je répète, de curieux et de délicieux, mais je pense qu'il suffit d'être allé à des soirées où il mixait pour capter que le délire partait trop loin, quoi, que c'est justement le côté ecclésiastique de sa musique, enfin éclectique, pardon, pas les églises, hein.
C'est le concordat en Alsace,
mais non, mais encore une fois je pense que ce qui a été dit et ce qui est important, c'est aller voir ce documentaire, aller découvrir quelqu'un qui faisait de la musique différemment, qui pensait différemment, qui était ouvert d'esprit, encore une fois, même si on est un peu chauvin, quoi. Merci Arte, merci Strasbourg, et ça vient de chez nous et c'est la classe, quoi. Donc allez-y tous, allez regarder, montrez-le à vos
et
enfants,
le clip,
et allez voir notre clip Lucky Boy Outlines Remix, parce que on a
surtout,
mis 4 ans pour le faire.
Et pas des royalties là-dessus?
Rien, allez le voir quand même. Justement, on n'est pas intéressé. Allez vous rincer l'œil sur 4600 dessins.
Tu m'étonnes. Ghislain.
Je voulais juste dire que ouais, je pense vraiment que quel que soit votre âge, quel que soit l'endroit où vous venez.
Et ta culture, ouais.
Et quelle que soit votre culture, je pense qu'il y a au moins un son que DJ Mehdi a produit que vous connaissez en fait. Parce qu'il a vraiment tellement touché à tout, il a tellement été dans des domaines musicaux différents. Il a tellement une longue carrière, je pense, on peut dire que ouais, c'est pour ça que je confirme, je rajouterai à ce qu'il disait, c'est de regarder le documentaire avec assiduité. Voilà.
Krish, ou tu te prépares pour le qui suis-je?
Vas-y, je suis chaud. Non, mais vraiment, moi, ça faisait longtemps que tu vois un documentaire m'avait pas mis une claque comme ça, la larme à l'œil presque, et quelques instrus. Tu vois, où tu te dis, putain, c'est... en fait, on se rendait pas compte du travail. Et forcément, ce que j'ai fait, comme tout le monde, à mon avis, c'est que le lendemain et le surlendemain, j'ai sur écouté, Spotify, oui, je n'ai écouté je n'ai écouté que ça. J'écoutais que les prods de Mehdi et je me suis dit putain, mais c'est ouf. C'est complètement
pour les
ouf.
Warriors, allez sur YouTube hein, pour voir la vidéo là.
Ouais.
Où ils décryptent justement le reportage. C'est vraiment stylé. Il y a plein d'anecdotes en plus.
Eh ben, génial. Génial. C'est la fin de notre thème. C'est pas encore la fin de l'émission. On va tout de suite après rendre l'antenne pour Planet Racing. Il y a plein de choses à vous raconter de 21h à 22h. Mais en attendant, c'est le nouveau rendez-vous qu'on vous donne. On essaye chaque semaine, pour chaque épisode, ben, de faire deviner et de compter les scores pour la fin d'année. Un qui suis-je? Vous êtes prêts, les amis?
Vas-y.
Ils sont au taquet. Alors, je suis un artiste.
DJ Mehdi.
Je fais partie d'un célèbre groupe. J'ai fait partie d'un célèbre groupe. J'ai collaboré avec plusieurs marques.
Pharrell, Nigo.
De sneakers.
Kerry James.
J'ai un lien avec la Jordan 7.
Jordan 7.
J'ai donc tourné.
Michael Jackson.
Bingo!
Et heureusement que tu l'as eu celle-là.
J'ai tourné avec.
Ouais, mais ça, mais oui, heureusement, on l'a laissé, Manu, c'est bon, tranquille.
J'ai aussi porté des LA Gear et j'ai pris trop de médicaments.
Là, c'était vraiment
et là, je suis en ce moment sur une île déserte quelque part avec
Elvis Presley.
Avec Tupac et Didi.
Et Elvis.
Ouais, plutôt avec.
Et la Jordan 7, ça m'a fait penser au clip Jam avec Michael Jordan.
C'est exactement ça.
C'est pour ça.
Michael Jordan.
C'était la 7 Bordeaux.
Exactement. La 7 Bordeaux portée dans le clip qu'on peut
Jam
retrouver
avec Chris Cross, c'est d'ailleurs la première fois que j'ai entendu quelqu'un rapper sur un morceau. C'est là que j'ai découvert le hip-hop, c'est avec ce morceau. Voilà.
Jam.
Exactement ça, tu le fais très bien.
Et voilà, messieurs, dames, je ferai un solo la prochaine fois pour la prochaine émission. Et ben voilà, il est 20h58, quasiment dans 2 minutes, place à Planet Racing. Quant à nous, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On sera le 1er octobre pour l'épisode 5 de Sneak On Air. Rendez-vous 20h, 21h, même endroit. C'était Sneakers Empire.
Dans tes oreilles.
Fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this club up. Fuck this.